France Inter.
Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Monter dans un Boeing, c'est prendre un risque. L'avertissement choc d'un ancien cadre de l'avionneur américain, auditionné par le Sénat hier soir à Washington. Quatre lanceurs d'alerte ont ouvert cette commission d'enquête de tous les dangers pour le géant de l'aéronautique. Nous serons aux États-Unis. Direction aussi la Russie, c'est l'une des dernières entreprises françaises sur place. Auchan annonce la cession de ses centres commerciaux dans le pays, tout en gardant pour l'instant ses magasins, mais le marché devient très risqué. Explication depuis Moscou. Les Antilles françaises, nouvelle plaque tournante de la drogue entre l'Amérique latine et l'Europe. C'est lié, vous l'entendrez, à la chute de la consommation de cocaïne aux États-Unis. Gérald Darmanin, en Guadeloupe, annonce ce matin un couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre. Et on va en reparler à 8h20, Nicolas.
Oui, dans le grand entretien de la matinale avec Maxence Lambrec. Notre invité est aujourd'hui le député Rassemblement National de la Somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Vous avez la parole, ami auditeur, 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter.
Dans ce journal aussi, le procès d'une secte, la sœur d'une victime témoigne, l'Inde à la veille des élections législatives, et puis notre choix musical, le nouvel album des Anglais de Ride.
France Inter.
Elles étaient très attendues, ces premières auditions devant le Sénat américain. Quatre lanceurs d'alerte, dont trois ex-employés de Boeing, entendus hier soir sur les failles de sécurité de l'avionneur. Après plusieurs incidents très médiatisés, dont cette porte arrachée en plein vol. On a eu la semaine dernière un premier goût de ces révélations, on vous en a parlé sur Inter. Mais après les nouvelles déclarations d'hier soir, on se demande bien ce matin comment Boeing peut s'en sortir. Washington, Sébastien Paour.
Sam Salepour est ingénieur qualité chez Boeing depuis 17 ans et il témoigne malgré les pressions qu'il dit avoir reçues. Je suis ici aujourd'hui parce que je ne veux pas voir le 787 ou le 777 s'écraser. J'ai de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des 787 et 777 et je suis prêt à prendre des risques professionnels pour en parler. Il décrit par exemple des raccourcis de fabrication sur le 787, des inspections pas assez nombreuses qui peuvent faire baisser la sécurité des avions. Ce que j'essaye de dire, c'est que l'attitude de Boeing au plus haut niveau consiste malheureusement à utiliser des pièces défectueuses, quelles qu'elles soient. Ed Pearson a lui été l'un des responsables du programme 737 MAX chez Boeing. Il estime qu'il n'est toujours pas sûr et il ne mâche pas ses mots pour être entendu. À moins que des mesures ne soient prises et que les dirigeants ne soient tenus pour responsables, chaque personne qui monte à bord d'un Boeing court un risque. L'avionneur dément que 1400 de ses appareils comportent des failles de sécurité. Ses responsables seront appelés à témoigner lors de prochaines auditions. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Il y a cette commission du Sénat américain, mais aussi l'enquête du régulateur américain de l'aérien, la FAA, qui a désormais dans le viseur trois des quatre modèles d'avions commercialisés par Boeing. Un autre groupe dans l'actualité, français celui-là, le géant Mulier, toujours présent en Russie avec ses enseignes Auchan et Leroy Merlin, 2 ans après le début de la guerre en Ukraine. C'est l'une des dernières entreprises tricolores à maintenir une activité sur place avec des dizaines de milliers de salariés russes. Mais c'est peut-être en train de changer. En tout cas, Auchan entame un désengagement. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour.
Correspondant d'Inter à Moscou, la filiale immobilière du distributeur français vient de vendre les centres commerciaux qu'elle exploitait en Russie. Opération particulièrement opaque.
Oui, la presse russe affirme que la filiale immobilière d'Auchan a vendu 40 centres commerciaux. Mais le siège de Noud, en France, parle de 19 seulement. L'acheteur est une mystérieuse société russe dirigée par un jeune avocat de 23 ans que personne ne connaît et qui a toutes les apparences d'un prête-nom. Le montant de la transaction est inconnu, mais ce n'est certainement pas une bonne affaire pour le groupe français. Le gouvernement russe impose un rabais d'au moins 50% pour les sociétés occidentales qui veulent quitter le pays. C'est une sorte de taxe à la sortie et la négociation se fait sous la menace d'une saisie pure et simple des biens par l'État. C'est ce qui est arrivé à Danone, qui a vu ses usines placées sous gestion temporaire avant de pouvoir trouver un accord avec un acheteur pour un montant là aussi inconnu.
Mais alors, Sylvain, faut-il y voir un retrait total? Auchan va-t-il fermer ses magasins en Russie?
Alors non, a tout de suite précisé Auchan, qui est particulièrement surveillé par le pouvoir russe, parce qu'il y a un enjeu social notamment, il emploie 30 000 salariés. L'enseigne a dit qu'elle ne comptait pas fermer ses 230 magasins russes, même si ses affaires sont nettement moins florissantes. Chiffre d'affaires en baisse de 5% l'an dernier, bénéfices divisés par 10. La situation économique, quoi qu'en dise le Kremlin, n'est pas florissante en Russie et le marché est devenu très risqué. D'où peut-être cette volonté d'Auchan de céder ce qui peut l'être encore, les murs, même à prix bradé.
Sylvain Tronchet, France Inter à Moscou, merci.
Il est 8h05, ils sont âgés, Alexis, de 14 et 15 ans.
Deux adolescents sont en garde à vue dans le Nord après la mort d'un homme de 22 ans à Grande-Synthe, victime d'une très violente agression dans la nuit de lundi à mardi. Le drame suscite depuis une vive émotion dans la commune où une marche blanche sera organisée demain. Le maire de Grande-Synthe appelle en attendant à ne pas céder à l'esprit de vengeance. Contre cette violence des mineurs, l'exécutif veut une grande consultation nationale, un peu à l'image de ce qui a été fait avec le Grenelle des violences conjugales. Pour son 100e jour à Matignon, le Premier ministre est attendu aujourd'hui à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, où la semaine dernière, un collégien, Chemseddine, a été mortellement passé à tabac. L'entourage de Gabriel Attal promet un discours sur l'autorité. Et sans attendre, le ministre de l'Intérieur, qui vient d'arriver en Guadeloupe, annonce lui un couvre-feu pour les moins de 18 ans à Pointe-à-Pitre, contre la flambée de la délinquance là-bas. Pendant 2 mois, il leur sera interdit de sortir entre 20h et 5h du matin. Les Antilles en première ligne face à l'explosion du trafic de drogue. Gérald Darmanin vient d'ailleurs y lancer une nouvelle opération PlaceNet XXL. Ariane Grissel, les îles françaises des Caraïbes sont devenues une plaque tournante entre les pays producteurs en Amérique latine et les consommateurs en Europe.
Les plages de Guadeloupe et de Martinique font certes le bonheur des touristes, mais aussi celui des groupes criminels. Ces grandes étendues sont impossibles à surveiller en permanence. Les trafiquants d'Amérique du Sud peuvent donc y déposer leur cocaïne par bateau à l'abri des regards. Difficile par conséquent de savoir quelle quantité précisément est ainsi livrée chaque année, mais clairement de plus en plus, constatent ceux qui tentent d'endiguer ce trafic, à l'image de Clarisse Taron, procureure de la République de Fort-de-France. Sa juridiction est chargée des affaires de criminalité organisée dans les Antilles et en Guyane.
Nous avons eu ces dernières années une multiplication quasiment par 3 de la production de cocaïne par les pays comme la Colombie et le Pérou. Et la cocaïne est un peu en perte de vitesse aux États-Unis, remplacée par des drogues de synthèse qui font d'ailleurs des ravages. Du coup, il a fallu pour les pays producteurs écouler leur production et ils se sont naturellement tournés vers l'Europe.
Direction les ports du Havre, de Rouen, de Dunkerque, entre autres. La cocaïne est souvent cachée dans des conteneurs, mais peut aussi être acheminée vers l'Europe par des particuliers, les mules, via colis postaux ou sur des bateaux de plaisance. Face à eux, les navires des forces armées aux Antilles. Rien qu'en février dernier, leurs équipages ont intercepté plus de 8 tonnes de cocaïne, contre 11 pour toute l'année dernière.
Ariane Grissel, à l'agenda judiciaire des prochains jours, le procès rare d'un mouvement sectaire, la Grande Mutation, et son fondateur, chercheur au CNRS, qui prétendait avoir visité une vingtaine de planètes avant de revenir sur Terre pour, je cite, « sauver la race élue ». Lui est mort depuis, mais 6 dirigeants de cette secte seront jugés à partir de lundi pour abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine. On leur reproche notamment d'avoir embrigadé 200 adeptes en les poussant à délaisser la médecine conventionnelle pour se soigner. La sœur d'une victime s'est confiée à votre micro, Charlotte Piret.
Marie-Christine se souvient de cet été 2011, lorsque sa sœur Véronique lui confie fréquenter la Grande Mutation.
C'était plus la même personne que j'avais en face de moi. Ce sont des phrases toutes faites qu'elle nous débite et qu'elle ne comprend pas toujours.
Au fil des ans, Véronique est complètement happée par les théories d'Étienne Guillet, ancien chercheur au CNRS, qui prétend avoir parcouru 22 planètes et utilisé ses cheveux longs comme antenne cosmique.
Puis après, ils avaient des travaux à faire avec le pendule, qui a fini par diriger toute sa vie. Si elle avait un médecin à appeler, ou c'était le pendule qu'elle prenait, je me suis dit, mais on l'a perdu.
La suite, malheureusement, lui donnera raison.
Voilà, un petit peu à la fois, elle se détache de tout le monde. De la famille, de ses amis, de ses enfants. Elle a déménagé. Moi, elle n'a pas voulu me donner son adresse. On espérait toujours qu'elle s'en sorte. Mais ils ont été plus forts que nous.
Véronique s'est finalement suicidée. Son corps n'a été retrouvé qu'après plusieurs semaines. Pour maître Margot Machard, avocate de partie civile, son histoire est emblématique du processus d'emprise de la Grande Mutation.
C'est la création d'un sentiment de paranoïa en divisant la population en 2 races. Et avec le pendule, on va devoir tester sa famille, son employeur, etc. Et ce sentiment de peur, il a joué aussi un rôle très important dans la soumission. Parce que le gourou va indiquer que si on continue pas rester en contact, on risque d'attraper le cancer.
Le gourou Étienne Guillet ne pourra pas être jugé, il est mort en 2018, mais les 5 autres dirigeants du mouvement encourent 5 ans d'emprisonnement.
Et ce procès commence donc lundi à Paris et pour 15 jours. Emmanuel Macron en soutien de Valérie Ayer, le chef de l'État s'est affiché hier à Bruxelles aux côtés de la candidate macroniste aux européennes, dont la liste est à la peine dans les sondages. Dans la foulée, l'Élysée a publié des images de la séquence sur son compte X, colère des insoumis qui dénoncent l'utilisation indue de moyens de la présidence et saisissent la commission des comptes de campagne. Ce matin, la publication en question n'est plus visible sur le compte de l'Élysée. Contre la précarité alimentaire, et si l'on testait une sécurité sociale de l'alimentation ? Le concept fait son chemin au sein des collectivités locales, comme à Bordeaux, où depuis le début de l'année, une association met en place ce dispositif pour les étudiants. Chaque mois, 150 jeunes tirés au sort cotisent 10 euros. En échange, ils perçoivent 100 GEM, c'est la monnaie virtuelle locale, qu'ils peuvent dépenser dans des magasins conventionnés. Et Sarah Mansoura, les premiers retours sont plutôt encourageants.
Carottes et pommes bio, quelques biscuits et du fromage. Autant de produits que Cécile, 21 ans, ne pouvait pas se payer avec son reste à vivre de 50 à 100 euros par mois. Aujourd'hui, elle en cotise 13, elle en reçoit 100.
Ça va être beaucoup de fruits et de légumes, parce qu'avant c'était du ponctuel. Plus de poissons ou de viande, des pâtes de meilleure qualité. Ça réduit, du coup, ça atténue la charge mentale, parce que le budget est quand même assez limité. Mais ça offre une certaine liberté et une normalité en fait.
Derrière ce projet à 200 000 euros, financé essentiellement par des fonds publics, il y a l'association CREPAC. Charlotte Boulet, chargée de mission transition écologique.
Ils découvrent les biocoop, ils découvrent les magasins vrac, tout un tas de produits qui se mettent à cuisiner. Sur les premiers questionnaires, on a relevé que 36% d'entre eux avaient déjà bénéficié de l'aide alimentaire.
Et cette sécurité sociale de l'alimentation, sans conditions de ressources, fonctionne très bien, résume Yannick Lung, coprésident de la GEM, la monnaie locale. Gironde.
98% de leurs dépenses se font dans les magasins d'alimentation. Ça montre bien que les étudiants jouent le jeu et n'ont pas de comportement opportuniste. Et le fait qu'ils respectent l'engagement moral, je crois que ça montre qu'on peut leur faire confiance.
L'an prochain, le CREPAC voudrait élargir le dispositif à toute la communauté universitaire en intégrant davantage d'autofinancement.
L'Union européenne confirme ce matin de nouvelles sanctions contre l'Iran après l'attaque contre Israël le week-end dernier. Seront visés plus particulièrement les fabricants iraniens de missiles et de drones. Elle se revendique plus grande démocratie du monde. L'Inde va devoir le prouver à l'occasion des élections législatives qui commencent demain pour 6 semaines. Alors que les critiques des défenseurs des droits humains se multiplient contre le recul des libertés individuelles, le Premier ministre Narendra Modi est bien parti pour l'emporter une nouvelle fois, un troisième mandat, en s'appuyant notamment sur son bilan économique, 7% de croissance. Mais cette réussite cache des inégalités qui se creusent comme jamais. France Inter est à New Delhi. Reportage signé Valérie Crova.
Le quartier de Gavinpuri, dans le sud de New Delhi, a vu récemment des barres d'immeubles se construire. Ici sont logées 3000 personnes qui, comme Anita, habitaient dans un bidonville.
Modi a fait beaucoup de bonnes choses pour nous. Je vivais dans un endroit délabré, mais Modi m'a fourni un bon logement. C'est un beau geste pour les pauvres et j'en suis heureuse.
Le Premier ministre indien a-t-il eu une arrière-pensée électorale quand il a prolongé juste avant la campagne la distribution gratuite de vivres qu'il avait instauré au moment de la crise du Covid. 3 kilos de riz et 2 kilos de blé par mois et par famille, 800 millions de personnes bénéficient de cette aide alimentaire. Les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. C'est ce que représente pour nous le statut de l'Inde en tant que 5e économie mondiale, nous dit cette femme qui gagne sa vie comme domestique. Amit Tora travaille sur les inégalités à l'université JNU de Delhi.
1% de la population se partage environ 40% de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes plus inégalitaires qu'à l'époque britannique. La différence entre les riches et les pauvres n'était pas si grande. Aujourd'hui, c'est ahurissant. C'est la pire au monde.
En dépit du creusement des inégalités, Narendra Modi demeure étonnamment populaire parmi les plus démunis, résignés à assurer leur survie quotidienne.
Valérie Crova et Fabien Gosset, envoyés spéciaux d'Inter en Inde.
Il est 8h14, ils se connaissent depuis l'école primaire.
Et de leur amitié est né l'un des groupes musicaux les plus respectés d'Angleterre. Depuis sa fondation à la fin des années 80, le quatuor Ride est de retour avec un nouvel album. Peut-être Mathieu Culeron, le plus grand public, le plus accessible de leur discographie.
Connu pour ses guitares hypnotisantes qui ont fait référence au début des années 90, le groupe Ride revient avec un album qui est une plongée dans les origines de la formation. Andy Bell est l'un des guitaristes chanteurs du groupe.
Last Night I Went Somewhere to Dream a été la première chanson sur laquelle on a travaillé. Elle ressemble un peu à de la pop à la Tears for Fears au milieu des années 80 et ça a été le début d'une réflexion entre nous pour se souvenir des titres que l'on aimait lorsque nous étions à l'école ensemble, comme cet album de U2 ou celui de Talk Talk. The Color of Spring by Talk Talk.
Envisagé comme un voyage imaginaire, les titres du nouveau Ride évoquent Monaco, Essaouira ou encore Portland. Quant à la musique, elle rend définitivement hommage à l'univers des années 80.
Nous n'avions jamais pris cette direction avec Ride, c'est un peu comme revenir aux sources du groupe. On a toujours dit que les Beatles étaient l'origine de notre groupe, c'est vrai, mais c'est aussi tous ces trucs des années 80, les guitares sont de retour, bébé.
Ride qui revient à son ADN, un disque qui fourmille de références qui vont probablement perturber les fans de la première heure tout en allant conquérir un public plus large, un disque cohérent et efficace qui, l'air de rien, a sauvé le groupe d'une séparation presque certaine.
La Interplay, c'est le nouvel album de Ride. En Ligue des champions de foot, le tenant du titre n'ira pas plus loin que les quarts de finale. Manchester City éliminé hier soir par le Real Madrid qui affrontera lui le Bayern en demi. Ce soir, Ligue Europa et le quart retour entre Marseille et le Benfica. Coup d'envoi 21h. Et puis dans le championnat radiophonique, oui. Nicolas, Léa, France Inter remportent une nouvelle fois la coupe. Les audiences Médiamétrie viennent de tomber. Elles sont encore très bonnes pour notre radio.
Elles sont même historiques, Alexis. France Inter est de loin, une fois encore, la radio préférée des Français. Vous êtes désormais près de 7 200 000 à nous écouter tous les jours. C'est tout simplement un record absolu en radio ces 20 dernières années, Léa.
Et oui, vous êtes 4 700 000 à écouter le 7-10 qui est et reste la première matinale de France. Merci à vous d'être fidèles au rendez-vous de Sonia De Villers, de Mathieu Noël, de Mixeux, de Yael Goz, Mathilde Serrel, Aline Afanoukoué, Clota Skolovitch et tous les autres. Bravo à Florence Paracuelos dont le journal de 8h reste le rendez-vous le plus écouté le matin de toute la France. Voilà, télé, radio confondues. C'est aussi le cas de tous les grands carrefours d'infos de France Inter. Le 5-7 qui enregistre une forte progression. On embrasse Mathilde Munoz. Le 13-14, le 18-20 qui sont largement en tête des audiences. Coucou et bravo à Marion Lourd et Ali Badou qui sont à ce micro dans ce studio du vendredi au dimanche. Merci à vous, chers auditeurs. Merci aux équipes d'Inter, à la rédac, aux programmateurs, aux techniciens. Ouais. Ces résultats sont les leurs.
Et quelques mots des programmes d'Inter. Vous êtes toujours plus nombreux à plébisciter Grand Bien Vous Fasse, la bande originale, Carnet de Campagne, Le Jeu des 1000 euros, Grand Canal, pour ne citer que ces émissions. Quant au numérique, 43 millions de podcasts, 43 millions de podcasts d'Inter sont téléchargés chaque mois, 85 millions de vidéos vues sur nos réseaux sociaux. Ça fait beaucoup de chiffres, Léa, mais ils disent, je crois, la confiance que vous nous témoignez, amis auditeurs, mais aussi l'ouverture d'esprit et la puissance de la radio de service public. Et ça, c'est crucial de l'affirmer, de le mesurer et de le revendiquer en ce moment, vraiment.
Alors vive le service public et merci à tous.
Léa, on vous retrouve à 9h20 avec votre invitée tout à l'heure, la comédienne Béatrice Dalle. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur Euromaster.fr.
Grande voix du 7-10 qui va nous dire que le pays est coupé en deux dès ce matin.
Eh oui, car on est coincé, Nicolas, entre l'anticyclone qui reprend des forces sur l'Atlantique et à l'Est. On a la dépression sur l'Europe centrale qui arrive jusqu'à nous, avec toujours cet air froid en altitude qui descend, même sur les régions du Sud aujourd'hui, donc sur le nord de la Vendée. En remontant vers l'Île-de-France, aux Ardennes, le soleil arrive à percer les nuages, alors qu'au sud d'une ligne qui relierait les Charentes à la Lorraine. Vous aurez encore des averses, voire du grésil et de la neige à basse altitude sur tous les reliefs. Et autour de la Méditerranée, le soleil sera encore présent ce matin sous le vent. Des averses en Corse et des orages avec le retour des gelées. Moins 3 dans la Marne, moins 1 dans les Ardennes. À Signy-le-Petit, 0 à Guéret, 2 à Abbeville, 4 à Paris, 8 à Brest et 12 à Nice.
Et davantage d'éclaircies cet après-midi.
Oui, le ciel va se dégager un peu plus sur le centre au nord de l'Alsace, mais toujours, vous aurez des averses encore, des Pyrénées au Grand Est avec encore des flocons sur les reliefs. Et dans le sud, toujours du vent et ces averses qui vont gagner le Languedoc-Roussillon ainsi que la région PACA en épargnant la basse vallée du Rhône. Elles seront orageuses sur les Alpes-Maritimes et la Corse où la neige tombera à 1200 mètres. Vous n'aurez pas plus de 7 à Murat et Font-Romeu, 8 à Münster, 10 à Chambéry, 11 à Lyon, 13 à Lille, Rouen, Toulouse, Bourges, 14 à Paris, comptez 15 à Marseille comme à Nantes, 16 à Bordeaux et 18 à Bastia. En se rappelant Marcel Pagnol, la preuve que Dieu est l'ami des joueurs de boules, c'est que les feuilles des platanes sont proportionnées à la force du soleil.
Magnifique, merci Marie-Pierre. Il est 8h20. Bon.